On a vu dans les différents médias qu'une entente de principe est survenue entre l'Union des producteurs agricoles et le gouvernement du Québec. On sait que les agriculteurs avaient de nombreuses demandes et on en a parlé à de nombreuses reprises sur nos ondes. Donc, on veut faire le point là-dessus. On a au bout du fil, il a accepté de nous parler. Martin Caron, président... Je dis, il a accepté de nous parler comme s'il ne nous parlait pas. Il nous parle toujours, mais il a encore accepté une fois de plus, Martin Caron. Il est président général de l'UPA suite à cette entente intervenue. Monsieur Caron, bonjour.
Bonjour.
Donc, je le dis en ronde, mais c'est encore un plaisir de vous parler parce que, bon, on a de nombreux agriculteurs. L'agriculture est un secteur bien important chez nous et de nombreux enjeux planent au-dessus de la tête de nos agriculteurs. Donc, quand on entend parler d'une entente de principe, bien, c'est de bon augure.
Oui, c'est de bon augure. Je vous dirais, avec cette rencontre-là de lundi avec le premier ministre puis M. Lamontagne, puis de s'entendre un peu sur des solutions puis des actions concrètes puis sur des principes, entre autres, il reste que. Il faut quand même être prudent, il faut que ça passe au Conseil des ministres la semaine prochaine, mais je pense que quand le premier ministre se déplace puis vient exposer toutes les actions, je pense que ça donne un signal clair par rapport à ça. Et puis, d'autant plus intéressant que le premier ministre nous a dit, bien écoutez, on a entendu les producteurs, ils se sont mobilisés, on les a entendus, puis c'est pour ça, entre autres, qu'il y a une reconnaissance de la crise agricole, puis une reconnaissance aussi sur... toute la lourdeur administrative aussi qu'on peut vivre en tant que producteur, productrice agricole.
On avait l'opposition au gouvernement qui avait proposé de dépenser au moins 1% du budget de l'État, de le consacrer à l'agriculture. Ça avait été rejeté, cette motion-là, par la Coalition Avenir Québec. Puis à ce moment-là, je disais, probablement qu'ils vont vouloir arriver avec leur propre mouture, pas simplement accepter l'idée d'un autre parti. La politique étant ce qu'elle est, on veut tirer notre épingle du jeu. Puis je me disais, probablement qu'il y a quelque chose qui s'en vient parce qu'ils ont besoin d'aide, nos agriculteurs. Donc, j'avais pas fait trop fausse route. Là, on n'a pas beaucoup... En fait, on n'a pas de détails. Là. Ça devrait venir, quoi, au courant de la semaine prochaine, les détails de cette
entente? Absolument, aussitôt que ça va avoir passé au Conseil des ministres. Mais qu'est-ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on avait des ententes. La première des ententes puis des demandes, la première des demandes qu'on faisait, c'est de régler les dossiers 2023.
Oui.
On peut penser à les pluies diluviennes qu'on a eues, c'est que nos producteurs de la région, là, de fraises, framboises, producteurs maraîchers, horticoles, entre autres, qui ont eu des impacts énormes. On a voulu déclencher un programme fédéral qui s'appelle Agri-Relance et soutenir les producteurs. Ça, donc, on avait des demandes. Ça, il y a des propositions, il y a des actions qui vont être mises de l'avant aussitôt que le Conseil des ministres vont passer. Ça répond, entre autres, à nos gens. Il y avait aussi des enjeux de sécheresse, peut-être plus au niveau de l'Abitibi, techniquement. Au-delà de ça, la crise agricole, pour rappeler aux gens, revenu net qui a baissé de 45 % en 2023. Puis là, le revenu net, les projections pour cette année, on dit qu'on va avoir une baisse de 86 %. Ça fait que donc, vous comprenez que les revenus qu'on va avoir versus les dépenses, ça arrive égal à zéro. Ça fait qu'il n'y aura pas d'argent. Puis dans des cas comme ça, ben, les producteurs ne se gardent pas de salaire. Ça fait que c'est pour ça qu'on demandait un aide spécifique aux jeunes de la relève, parce que ceux qui sont le plus impactés présentement, c'est nos jeunes de la relève.
Oui.
Ceux qui démarrent les entreprises sont plus endettés, naturellement, quand tu commences. Ça fait que donc, eux aussi, ils vont avoir un soutien qui vont les viser par rapport au taux d'intérêt. Et on a aussi d'autres entreprises qui ont réinvesti sur les dernières années et puis qui ont une difficulté présentement par rapport à leur solde résiduel qui est négatif, avec certains prêts monétaires qui est négatif. Et ça aussi, il va y avoir des actions là-dessus. Ça fait que c'est sûr, pour nos producteurs de la région, ça va donner de l'air par rapport, entre autres, à nos entreprises, parce que il y a deux éléments clés qui sont reflétés dans notre sondage qu'on a fait pour cette année versus l'autre année. La hausse des taux d'intérêt, c'est vraiment ça qui fait mal au niveau des entreprises. Puis c'est pas pour rien que dans notre sondage, ben, il y a à peu près 42 % des producteurs et productrices agricoles qui ont un solde résiduel négatif. Faut peut-être expliquer aux gens, solde résiduel négatif, ça veut dire, ben, comme j'ai expliqué tantôt, ben, je vends mes produits, j'ai des revenus, je calcule mes coûts de production, mes dépenses, j'arrive pas juste à zéro, mais j'arrive dans le négatif, ben, mes dépenses ont coûté plus cher à cause du transport, à cause du coût des intrants et naturellement cette hausse-là des taux d'intérêt.
Si on peut pas, une situation comme ça, ça peut pas perdurer très longtemps avant qu'on mette la clé dans la porte, là.
Absolument. Puis on regarde dans la région, dans votre région, entre autres, la moyenne des entreprises. Dans notre sondage, on demandait c'est quoi les options que les producteurs font. C'est que Il y a une entreprise sur cinq, premièrement, qui est en congé de capital, c'est-à-dire qui rembourse juste les intérêts. Et de l'autre côté, il y en a qui visent, et ça, ça représente 15%. 15% des entreprises chez vous, là, leur idée, là, c'est de fermer boutique, là.
Aïe, aïe, aïe.
C'est plus haut que la moyenne, parce qu'en moyenne, au Québec, c'est à peu près 11%, qui est déjà énorme. Mais en région, on voit que ça a un impact. C'est pour ça que ça nous dit qu'il faut avoir de l'aide ponctuelle très rapide. Mais en même temps, dans tout ça, il va falloir avoir une vision de développement de l'agriculture puis de l'agroalimentaire. Puis comme je l'ai dit sur toutes les tribunes, c'est un projet de société, là. C'est un projet de société de nourrir les Québécois et Québécoises. Et les producteurs portent ça sur les épaules, à bout de bras. Mais là, on ne peut plus s'endetter pour faire ça. Et c'est pas pour rien qu'on dit que la prochaine politique bioalimentaire, qu'on est dans la préparation pour des objectifs, va falloir avoir plus de 1% du budget. Va falloir que cette politique-là, qui est le projet de société le plus important au Québec, je sais qu'on parle de l'éducation puis de la santé, c'est très important, mais nourrir le monde, c'est quand même la base de la société. Et des fois, on le prend pour acquis, là. Mais il reste qu'il va falloir amener ces budgets-là pour soutenir nos producteurs dans chacune des régions, à développer, puis à avoir cette transition-là aussi, parce qu'on a des enjeux climatiques, on a des enjeux de bien-être animal. Alors, il faut investir et non voir l'agriculture comme une dépense.
Donc, il y aura d'autres rencontres entre M. Caron et M. Legault à venir, là.
Oui, exactement. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a des enjeux présentés à court terme qu'on voulait que le gouvernement lance un signal. Mais pour la prochaine politique bioalimentaire et le prochain budget, c'est sûr que nous, on s'attend, là. Les producteurs ne demandent pas mieux, là. D'accomplir ce projet de société-là. Mais il faut être soutenu, il faut être accompagné là-dedans. Et il y a tout le bureau Crécy ici, je tiens à le mentionner, là. Il y a quand même un engagement du gouvernement présentement, du jamais vu, là. 14 mesures spécifiques, là, pour alléger la paperasse ou le bureau Crécy. Et ça, on va avoir des gains monétaires par rapport à ça. Puis je tiens à signaler à la population, c'est pas qu'on baisse nos normes, là. C'est juste qu'on remplit moins de papiers deux fois ou trois fois la même affaire ou qu'on nous demande des choses qu'on envoie déjà dans d'autres ministères. Ça implique quand même 8 ministères. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, là. Je pense que ça donne un signal de reconnaître les producteurs agricoles comme des professionnels de l'agriculture.
J'imagine que ce que vous nous parlez là, la politique bioalimentaire a augmenté la part du budget dédié à l'agriculture. J'imagine que vous en avez déjà parlé avec le premier ministre. Est-ce qu'il semblait ouvert à tout ça?
Oui, moi, je vous dirais qu'on en a parlé. À ça, on rajoute aussi par rapport au territoire agricole, la protection de nos terres agricoles. Et il y a un enjeu sur cette politique bioalimentaire-là, puis un élément que M. Legault n'était pas au courant. C'est qu'au Québec, on a 40% de nos entreprises qui n'ont pas de plan de relève, là. Et ça, nous, ça nous inquiète, là. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ben, les entreprises qui sont là, ça ne sera pas des enfants des producteurs qui vont faire l'agriculture sur ces fermes-là. Ça va être d'autres gens. Et comment qu'on peut aider, entre autres? Je pense que nos producteurs sont prêts à faire un bout, mais il va falloir qu'il y ait des outils fiscaux, entre autres, pour aider ce transfert-là des entreprises. Et ça, M. Legault, il était très clair. Non, mais il dit, faut pas les perdre, ces entreprises-là. Ça, c'est pour ça, quand je parle de projet de société, puis de continuer là-dessus, il faut vraiment avoir un plan d'action. Puis la politique, c'est un des outils, là. La politique bioalimentaire, c'est un des outils pour se fixer des objectifs puis voir un peu les cibles qu'on veut atteindre, là, là-dessus.
On a malheureusement plus de temps, M. Caron, mais un élément qui est important. Moi, j'en ai un ami qui vient de se lancer en agriculture. Ça fait quelques années. Il y a eu beaucoup de défis à relever. Il les a relevés. Il tente de les relever. Mais il a besoin de répit. C'est beaucoup le répit. Il travaille. Puis là, tu sais, c'est anecdote personnelle, mais on devait aller à la pêche l'année dernière. Il n'est pas venu. Il avait pas le temps. On devait y aller cette année. Il n'est pas sûr d'avoir le temps encore. À un moment donné, c'est pas juste une question d'argent. C'est la santé mentale, là. Faut pas être au bout du rouleau. Le répit, c'est pas évident parce que c'est notre entreprise. C'est nos animaux. Il y a beaucoup de fierté avec ça, puis c'est difficile de laisser tout ça à un employé qu'on voit ici et là. Donc, tu sais, la relève aussi, je pense que si on... pas la relève, mais le répit pour la relève, puis pour tout le monde en général, mais tu sais, peut-être que les nouveaux agriculteurs, c'est pas nos anciens agriculteurs d'il y a 50, 60 ans, peut-être, tu sais, la conciliation famille-travail, c'est différent, là.
Oui, absolument, mais vous avez attaché un bon point. Plusieurs personnes ont même des travails à l'extérieur pour être capables
d'acheter.
Il faut arrêter de survivre de l'agriculture. Il faut vivre de l'agriculture. Ouais. Et je pense que c'est là qu'on parle d'équité puis qu'il faut voir vraiment l'agriculture comme un investissement du garde-manger des Québécois et Québécoises et non comme un poste de dépense.
Bien, vous êtes président général de l'Union des producteurs agricoles. Merci, M. Caron. Puis on va surveiller ça avec attention la semaine prochaine, comment ça va, le détail de tout ça et la suite des choses, parce qu'on sait que les enjeux demeurent dans bien des niveaux là, en agriculture. Donc, il va falloir s'y attarder prochainement.
C'est bien. Bien, merci pour le plaisir de se reparler bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Donc, toujours très intéressant. On voit que, bon, c'est comment dire, un pavé dans la mare. Hein? Faut commencer quelque part. C'est des enjeux qui sont prioritaires au niveau de l'agriculture. On s'y attaque, mais il y a d'autres enjeux qu'on voit arriver à l'horizon, qui se pointent à l'horizon, et il faudra s'y attarder également. Donc, c'est ainsi que prend fin l'émission L'heure juste d'aujourd'hui. Mathieu Lacombe, ministre des Communications, ministre responsable de l'Outaouais, était notre invité en début d'heure. Il était hier du côté de Maniwaki pour faire une visite à l'hôpital pour prendre le pouls de comment ça se passe la situation alors qu'on est en crise en Outaouais, selon ses mots, là, en santé. Entrevue avec Chantal Lamarche également, préfète de la vallée de la Gatineau, suivant une rencontre avec le ministre de la Santé, toujours au niveau de cette crise, c'était la semaine dernière. Rencontre entre Mme Lamarche et Christian Dubé et d'autres préfets, en fait tous les préfets de l'Outaouais et le maire de Gatineau y étaient. Et on entendait il y a quelques minutes Madeleine Lefebvre, conseillère à la ville de Maniwaki et professeure en développement des collectivités à l'UQAT, avec une spécialité en politique municipale dans les petites municipalités pour parler justement de la politique chez nous, comment on peut accrocher le citoyen, rendre ça plus intéressant, plus attrayant et peut-être plus fonctionnel. Donc, on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous pour la dernière émission, l'heure juste de la saison, la semaine prochaine déjà. Et d'ici là, ben, j'espère que vous allez bien vous porter. Au revoir.